Mais pour arriver à ces controverses immédiates, je vais d'abord, dans un premier temps, ça me paraît indispensable, établir le cadre conceptuel qui permet donc d'éclairer ce type de controverse. Donc commençons par là, le cadrage conceptuel. Alors la mémoire dont je vais parler, et dont il est question donc dans ces débats, s'inscrit à l'évidence dans un certain usage du terme qui a été popularisé depuis les années 1970 par les historiens. On peut remarquer que c'est un usage qui s'écarte délibérément du sens premier du terme qui renvoie, et là on peut le rappeler, à une faculté psychique individuelle de remémoration du passé qui ramène vers le présent du sujet ce qu'on appelle des souvenirs, c'est-à-dire des sortes de bulles mentales dont les contenus peuvent être éventuellement transmis de génération en génération, souvent au sein des familles, ou partagés au sein de groupes, rendant de ce fait possible ce qu'on a appelé une mémoire collective. Et le premier qui a utilisé cette expression mémoire collective, c'est un sociologue français du début du XXe siècle, Maurice Halbwachs, qui avait donc expliqué la mémoire collective à partir de cette constatation qu'il y avait des souvenirs donc issus d'un héritage, en quelque sorte, transmis par voie verticale, qui étaient partagés par des ensembles d'individus, d'où le qualificatif de collectif. Mais aujourd'hui, le terme est employé dans un sens quelque peu différent, puisqu'il signale désormais une certaine modalité de connaissance du passé, socialement construite, diffusée dans l'ensemble du corps social. Alors, on parle dans cette mémoire-là aussi de souvenirs, même s'ils ne relèvent pas d'une activité personnelle de remémoration. Alors, ce qui fait la différence de cette mémoire-là, dont il est question aujourd'hui, avec la mémoire collective, au sens d'Halbwachs, c'est que cette forme de mémoire ne se constitue pas au long d'une transmission verticale, de génération en génération, mais elle relève d'une communication horizontale, de ce qu'on a pu appeler une contagion des idées, éventuellement fabriquée à partir des retombées de la production savante des historiens, les historiens qui évidemment ne peuvent pas contrôler l'usage mémoriel de leurs travaux, mais elle se construit aussi, je dirais, de briques et de brocs, à partir de toutes les représentations qui transitent par la voix orale ou par l'écrit, proposées par tous ceux qui nous parlent du passé, à savoir donc les écrivains, les journalistes, les hommes politiques, et j'en passe. Et c'est dans cette mémoire que s'ancre ce qu'on a pu appeler les usages publics de l'histoire. C'est une expression qui a été lancée par le philosophe allemand Jürgen Habermas, une expression qui s'est aujourd'hui imposée pour désigner toute affirmation ou toute action qui se réfère à l'histoire, dès lors qu'elle se développe, et ça c'est important, retenez-le bien, dès lors qu'elle se développe dans l'espace public, sans être forcément le fait d'historiens reconnus comme tels. Alors le passé qui est ainsi construit par cette communication horizontale des représentations peut être évidemment aussitôt constitué en ressources argumentatives, en ressources symboliques, en ressources affectives. Bref, il y a là un gisement qui est susceptible d'être exploité pour les pensées et pour les actions qui en découlent. Alors, en ce sens, on peut parler de mémoire publique, pouvant, selon les circonstances, faire irruption dans l'arène politique en fonction d'un certain nombre de variables qui affectent les régimes de sens qui ont été mis en œuvre dans la production de ces mémoires. Régime de sens, là aussi, c'est peut-être une expression un peu obscure pour vous, mais ça fait directement référence à la manière dont les sujets donnent un sens, donnent une signification aux représentations qui sont les leurs, représentations qu'ils sont amenés à manipuler. Alors l'émergence de ces mémoires s'inscrit, là aussi on peut le remarquer, dans un mouvement de fond qui affecte les sociétés contemporaines, celle de l'inflation d'une sorte de... Et en ce mot qui est un petit peu difficile, mais de tropisme mémoriel, c'est-à-dire d'attirance pour la mémoire, fortement corrélée à l'affirmation croissante des identités particulières, identités particulières dont les quêtes s'articulent à des mémoires spécifiques qui peuvent se révéler concurrentes, voire même conflictuelles. Et afin de rendre compte de la manière dont, généralement, ces mémoires sont construites, le philosophe Paul Ricoeur a avancé l'idée d'identité narrative au fondement de la conscience des sujets, tant du point de vue individuel que du point de vue collectif. Alors, un exemple d'identité narrative, c'est donné par le récit national. Le récit national, qui, évidemment... constitue une forme d'identité narrative, mais on peut dire aussi que tout être collectif, quel qu'il soit, aspire à cette forme de reconnaissance qui passe, vous le voyez, par la mise en récit. Alors revenons maintenant vers la notion de mémoire publique et vers les actions que cette mémoire publique peut générer dans les démocraties contemporaines.